Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, on est allé conduire cette semaine des véhicules millésimés 2022 qui arrivent sur le marché au moment où on se parle. C'est un peu spécial.
Oui, au moment où d'autres véhicules millésimés 2023 arrivent aussi. Dans mon cas, j'ai conduit la Volkswagen Jetta 2022, donc changement de mi-génération. Le modèle est arrivé en 2019.
Retouche esthétique, puis un nouveau moteur.
Retouche esthétique, oui, c'est assez subtil, faut avoir l'œil aiguisé pour le constater. Pour ce qui est du moteur, ben effectivement tu le mentionnes, on passe d'une cylindrée de 1,4 litres à une cylindrée de 1,5 litres.
Ça sent le muscle.
Ça sent le muscle. Essentiellement la mécanique du Taos qu'on retrouve et c'est 85% de composantes qui sont les mêmes que dans le 1.4.
Oh, oui, oui.
Donc, bref, c'est pas...
On a modifié l'alésage du bloc, puis c'est tout.
C'est pas un grand changement, disons ça comme ça. Cockpit numérique, pour moi, c'est peut-être le plus gros changement là, dans l'habitacle, ça paraît. Donc, bye-bye les aiguilles traditionnelles. Tout est...
De série pour tous les modèles.
Oui, alors qu'on l'avait juste pour l'Exact Line auparavant.
De toute façon, il n'y a rien de plus logique là-dedans. Ça coûte moins cher à fabriquer ça que des cadrans physique.
Bon, alors vois-tu, en plus, et je me réjouis que Volkswagen continue d'offrir la boîte manuelle. Pour moi, c'est une bonne chose, même si on sait que le
marché est de moins en moins là.
Le marché est en déclin. Puis on l'offre sur les deux des trois versions et sur la GLI. Quand on regarde un peu ce qui se fait ailleurs, j'écrivais cette semaine un texte sur la Kia Forte, qui est un véhicule concurrent de la Jetta, ben la boîte manuelle, on l'a seulement sur une version de base dépouillée de tout équipement.
Ce qui est encore pas pire parce que sur une Civic, tu ne l'as même plus.
Tu ne l'as même plus. Alors, bref, on peut quand même saluer l'effort de Volkswagen de continuer de l'offrir. En même temps, on comprend qu'une partie de la clientèle de Volkswagen carbure justement à la boîte manuelle.
Et c'est la seule offre pour une voiture abordable chez Volkswagen qui peut encore offrir ça. La Golf étant plus là.
Oui, exactement.
Puis sinon, c'est un festival de VUS tous plus excitants les uns que les autres.
Oui. Alors, et pour moi, oui, la Jetta, elle est plus grosse qu'avant, plus américanisée qu'avant, mais considérant l'état actuel du marché,
elle est quasiment le fun.
Elle fait bien le travail, elle est quasiment belle. Oui, ça va bien, c'est une excellente routière, c'est confortable. Le coffre a toujours été énorme sur une Jetta et il l'est encore maintenant. Et pour moi, un secret bien gardé, c'est la GLI. Qu'avec un peu à 32 000 et des poussières, on a une voiture qui est performante, qui est très belle. Et franchement, à ce prix-là, c'est très difficile d'obtenir un meilleur rapport prix-puissance, équipement et tout ce que tu veux. C'est plus qu'un compromis, c'est juste une très belle offre. Là.
Et on est moins cher qu'une Civic SI. Là.
Et moins cher qu'une Civic SI, moins cher qu'une WRX.
L'Elantra N.
On est moins cher que tout et on en offre beaucoup, je trouve. Franchement, la GLI mérite qu'on s'y attarde. C'est peut-être même un peu moins radical qu'une GTI. Je peux très bien imaginer là, deux parents avec deux enfants vouloir peut-être un peu d'agrément de conduite et rouler à l'année en GLI avec un support sur le toit. Puis pour moi, c'est tout à fait envisageable. Là. Alors, je pense qu'elle n'est pas considérée à sa juste... valeur. De ton côté, tu as conduit un véhicule qui n'est pas attendu du tout, le Ford F-150 Lightning. Enfin, une première vraie camionnette 100% électrique.
Ouais, de pleine grandeur. Le Rivian...
Ouais, mais on ne l'a pas ici. Là.
On ne l'a pas ici, mais le Rivian est déjà vendu du côté des États-Unis, va arriver éventuellement. Puis, je veux dire, je mets de côté le Hummer, même si c'est une camionnette, parce que c'est pas un véhicule pratico-pratique. Autrement dit, c'est un produit un peu plus de niche. en ce qui me concerne.
De grosses niches.
Mais... Oui, c'est oui. Bon, évidemment, on est allé du côté du Texas pour mettre à l'essai cette camionnette-là. Là où les camionnettes sont super populaires, il y en a partout. Le trois quarts des pick-up qui sont vendus là-bas sont blancs. Fait que c'est pas très original comme paysage automobile. Mais en demeure pas moins que le Lightning, même là-bas, même si l'essence est à 1$ le litre ou 3,80$ le gallon, ben c'est très, très, très alléchant une camionnette électrique. Puis évidemment, ben, le véhicule, premièrement, moi, ce que j'aime, c'est que on est très près d'un F-150 traditionnel en termes de look. La ceinture lumineuse qui contourne la calandre est probablement la signature qui te permet facilement d'identifier le véhicule comme un électrique, mais sinon, ça a tout d'une camionnette F-150 traditionnelle sur le plan esthétique et même à l'intérieur, mis à part, les écrans où, là, évidemment, tu as de l'information relative à au rendement du véhicule électrique plutôt que des cadrans traditionnels ou un rendement d'un véhicule à essence. Mais sinon, c'est très semblable.
De RPM.
Mais le véhicule, moi, je le trouve très intéressant sur le plan visuel. Maintenant, c'est sûr que tout ce qui se trouve en dessous du véhicule, ça diffère. On a quand même le châssis modifié du F-150. On a pris le châssis initial du F-150 qu'on a retravaillé pour pouvoir, évidemment, lui adapter une suspension indépendante à l'arrière et pour pouvoir y glisser les batteries. Deux tailles de batteries, 91 ou 131 kWh. Et je peux te dire un truc, c'est quand même assez intéressant. Moi, j'ai conduit, évidemment, la version la plus luxueuse. Il y avait un modèle de base là-bas avec la batterie de plus petite autonomie qui est à 375 km sans quoi on passe à 485 ou 515 km selon la version, parce que si tu optes pour le modèle Platinum qui est le plus luxueux, il est un peu plus lourd, il y a des roues de 22 pouces, il y a un plus grand impact au sol, il y a un peu plus de poids, donc l'autonomie baisse un peu par rapport à une version XLT si tu prenais la grosse batterie, qui est une option, soit dit en passant, de 13 380 $canadiens, donc à considérer. Là.
Oui, c'est substantiel là, comme prix. Là.
Alors, il faut comprendre ceci. Il y a quatre versions de disponibles. Il y a la Pro, il y a la XLT, il y a l'Aria et le Platinum. La Pro n'est offerte qu'aux entreprises, au parc. Tu ne peux pas acheter ça en tant que
consommateur individuel.
C'est
là.
Ça, exactement. Malheureusement, parce que ce véhicule-là, à 58 000 $ pourrait, dans un autre contexte, être éligible aux crédits gouvernementaux et ferait en sorte que la version XLT le serait aussi. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement, parce que...
Vraiment, on a des fins stratèges, hein, chez Ford.
Bien, je pense qu'on s'en fout, tout simplement.
Oui.
L'idée, ça a été de toute façon, on sait qu'on va les vendre de toute manière. Et bon, donc tu as la version XLT, tu as la version Laria et Platinum. Donc les trois premières viennent avec une batterie de 91 kWh. Tu prends l'option de la batterie de 131 en option, mais qui est offerte de série sur le modèle Platinum, qui lui coûte 110 000 $. Alors, c'est énormément d'argent, mais c'est le nec plus ultra. Et moi, j'ai fait le calcul financier entre une version Platinum à essence et une version électrique. Si tu finances sur 6 ans, si tu loues sur 4 ans, il y a à peu près un écart de 500 $ par mois avec ce véhicule-là, parce que l'écart de prix est d'à peu près 23-24 000 $. Donc, il y a un écart de 500 $ par mois, mais que tu vas mettre en essence, bien
oui.
évidemment.
Oui.
Donc, c'est sûr
parce qu'en ce moment, 500 $ d'essence, quand on a une camionnette pleine grandeur...
Non,
là,
c'est très facile.
C'est très, très facile. Là. C'est 2,5 pleins.
Deux pleins et demi dans le mois, là, tu fais ça très facilement.
Ouais.
Alors, je pense que ça c'est une option qui est très intéressante. Bon, évidemment, la disponibilité va être un problème. On sait que c'est 40 000 unités qui seront fabriquées en 2022. On espère être capable de prendre le beat et d'en fabriquer 150 000 en 2023, en 2024, en 2025. Bon, mais c'est l'objectif de Ford actuellement. On a 200 000 commandes de placer. On a arrêté de prendre des commandes pour le moment.
Donc, l'engouement, il est justifié.
Ah, absolument.
Et le produit est au rendez-vous.
Bon, c'est silencieux. Que tu remorques ou que tu remorques pas, C'est très confortable comme véhicule. La maniabilité, elle est surprenante parce que tu as une suspension indépendante à l'arrière. Alors, j'ai beaucoup aimé conduire ce véhicule-là, mais en contrepartie, c'est très lourd. Donc, tu le sens, là, c'est près de 5000 livres, une version Platinum. La batterie à elle seule pèse autour de 1500 livres. Le véhicule peut remorquer 10 000 livres, c'est quand même pas rien. 5700 dans le cas d'une version à petite autonomie. Mais le véhicule est capable d'offrir un rendement super intéressant. J'ai fait une moyenne de 27-28 kWh de consommation à l'aige. Alors, c'est quand même pas si mal. C'est pas beaucoup plus qu'avec une IONIQ 5. Alors, tu sais, moi, j'ai fait... C'est franchement... Une IONIQ 5 est autour de 21-22 avec un F-150 à 27-28. Bon, évidemment, si tu recharges ça dans ton garage sur une borne de niveau 2, 32...
T'en as pour la semaine, là.
Ça te prend 20 heures.
Ouais.
Mais Ford peut te vendre un système qui va te permettre de recharger plus rapidement. Évidemment, ça te prend une installation électrique adéquate à la maison, mais ça va te permettre de te recharger à la maison en 8 heures.
Ça, c'est intéressant.
Ça, c'est intéressant. Et tu peux aussi te... Puis évidemment, bon...
Parce que plus les autonomies augmentent...
Il faut que t'aies vidé la batterie au complet. Là. L'idée, c'est pas de la vider à tous les jours, mais si ça va te prendre 20 heures à partir de zéro. Mais si
personne n'atteint le zéro, comprends.
C'est
là.
Ça, c'est très rare. Alors, mais l'autre truc qui est intéressant, c'est que tu peux t'installer un système à la maison qui va te permettre d'inverser la charge de ton F-150, c'est-à-dire d'aller puiser l'énergie de ta batterie pour alimenter ta maison en électricité si jamais tu as une panne électrique ou ton chalet ou peu importe. Bon, c'est un système qui risque de coûter autour de 5000 $, pas les prix exacts, mais ça va te permettre de transformer ton F-150 en génératrice. Et un truc que j'ai bien apprécié, comportement, l'habitacle, tout ça, ça va, mais ce qu'on appelle le frunk, donc autrement dit, le coffre avant, qui contient 400 litres de volume. C'est la grandeur du coffre d'une Honda Accord, là, littéralement.
Lève le capot, puis on a un bel espace de chargement à l'avant.
Un bel espace de chargement multifonctionnel avec des prises, avec des lumières à DEL. Tu peux brancher plein d'accessoires. C'est franchement intéressant. C'est vraiment un camion très,
plus spacieux que certains demi-sous-sols.
Oui, c'est ça. Non, c'est très convaincant et on comprend pourquoi on va les arracher sur le marché. Et attendez-vous d'ailleurs à qu'il y a un marché noir puis qu'il y a de la surenchère, ça c'est sûr. Puis je veux juste terminer en mentionnant que, aussi bien que le public n'ait pas accès à un crédit gouvernemental pour ce véhicule-là, les entreprises auront droit à un crédit de 10 000 $ pour
avec le
versions.
Programme éco-camionnage, c'est ça?
C'est ça, exactement. Ce qui est un peu comique, c'est que tu peux avoir un accès à un crédit au Québec, mais pour la version la plus luxueuse, tu vas payer une taxe de luxe au fédéral. Donc, ça finit par s'annuler, là.